Voilà, bonsoir à tous, j'espère que l'acoustique sera bonne. Voilà, je me présente, je m'appelle Philippe Gaudin, je suis le président du conseil presbytéral donc de l'Oratoire du Louvre, de cette paroisse. Je vous souhaite bien évidemment la bienvenue pour une formule que nous inaugurons, voilà, qu'on appelle un peu pompeusement disputatio, voilà, en hommage à des mœurs théologiques ou universitaires médiévales. Cela signifie simplement que deux personnes débattent avec des arguments, des contre-arguments, de questions théologiques ou non. Alors, c'est un mariage, puisque c'est un sujet qui va nous intéresser, c'est un mariage, si j'ose dire, pour l'occasion, entre la paroisse de l'Oratoire et l'hebdomadaire Réforme. Et on s'est dit que, puisque Réforme avait déjà cette tradition de faire des doubles pages en opposant deux points de vue sur un sujet éthique, sur un sujet théologique, sur un sujet de société, pourquoi pas finalement continuer avec les débatteurs à l'oral. Donc voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire et nous pensons que de toute manière c'est toujours une bonne chose de faire vivre le débat à la fois au sein du protestantisme, c'est naturellement notre vocation, mais dans la société en général. Alors, nos deux débatteurs pour ce soir seront donc Antoine Nouis, à ma droite, qui est directeur de l'hebdomadaire Réforme, mais qui est pasteur de formation, et puis Marc Pernaud, qui est pasteur et qui est pasteur actuellement dans cette paroisse de l'Oratoire du Louvre. Autrement dit, ils vont opposer des points de vue qui sont des points de vue nourris en quelque sorte par la culture qui est finalement celle d'un pasteur, une culture théologique, une culture biblique, mais c'est aussi, je dirais, en tant qu'homme, en tant que citoyen, qu'ils vont débattre. Donc je crois que ça c'est très important de le dire. Je crois que ni Antoine ni Marc n'ont été jusqu'à présent des militants farouches, que ce soit pour ou que ce soit contre un mariage pour tous. Mais en même temps, bon, ils ont un point de vue à exprimer sur un sujet qui est à l'actualité politique importante et qui a des résonances, évidemment, pour l'aspect théologique des choses. Voilà, donc Marc ne représente pas le point de vue du conseil presbytéral, ni le point de vue des paroissiens de l'oratoire. C'est forcément un point de vue extrêmement divers, de la même manière que Antoine ne représente pas le point de vue ou une ligne éditoriale qui serait celle du journal Réforme. Voilà, donc c'est un sujet passionnel. J'espère que notre débat sera passionnant, mais surtout extrêmement tranquille et calme. Et je pense qu'on fera la part belle aux questions. Frédéric Cazadesus va vous le dire. Mais c'est vraiment pas pour laisser la place à l'invective, ça va de soi. On va parler très calmement et de manière argumentée de ces questions qui sont souvent très vives. Voilà.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis donc, comme vous l'avez compris, Frédéric Cazadesus, journaliste à Réforme. Pourquoi commencer cette série de débats par le mariage pour tous, comme il est convenu de l'appeler quand, en général, la plupart des gens parlent du mariage des homosexuels? Petite nuance, après tout. Pourquoi commencer par cela? Parce que nous sommes au mois d'octobre, en cette période de rentrée politique chargée, de questions économiques cruciales, face à un débat de société. Et nous avons pensé, au fond, comme le disait l'un des participants du débat, que c'était une question profonde qui engageait plus sans doute que des considérations juridiques ou de loi ou de droit, et qu'au fond, ça nous ferait du bien de parler de questions de ce genre plutôt que d'amorcer cette saison de débat par des considérations économiques, géopolitiques. Mais rassurez-vous, nous y viendrons aussi. Alors Philippe l'a dit en préambule, pas d'invective, mais enfin, ça n'exclut pas le dynamisme, bien entendu. Mais enfin, bon, je crois que nous sommes entre gens de joyeuses et affectueuses compagnies. La règle du jeu est la suivante. Pendant 45 minutes, Philippe et moi allons poser quelques questions à Antoine et Marc. Ensuite de quoi, après les 45 minutes, vous pourrez intervenir en posant des questions. Alors vraiment, nous vous encourageons à poser toutes les questions que vous aurez envie de poser. à partir des quatre thèmes que nous vous soumettons et qui sont les quatre thèmes de la soirée. Tout d'abord, ce que dit la Bible de l'homosexualité, ce que l'on pourrait résumer en parlant des fondements bibliques de la question homosexuelle. Deuxième thème, les questions anthropologiques, l'altérité, l'identité, comment ces thèmes entrent-ils en dialogue aujourd'hui et comment ont-ils été vécus depuis, je dirais, 100 ou 200 ans, guère plus, on ne va tout de même pas remonter systématiquement au temps biblique. Troisième thème, le mariage civil, comment trouve-t-il sa place en milieu protestant notamment. Et enfin, la question de la bénédiction religieuse. Et puisque nous avons déjà beaucoup parlé, je vous propose de poser une toute première question à Marc ou à Antoine. Tout simplement cette question, que dit la Bible de l'homosexualité ?
Voilà, bonsoir. Pas trop près. La première chose à dire, c'est que la Bible parle peu de l'homosexualité, mais elle en parle un peu. Et chaque fois qu'elle en parle, c'est de façon négative. En gros, les textes qui nomment l'homosexualité, on en trouve essentiellement dans trois endroits dans la Bible. D'une part, dans le livre du Lévitique. Dans le livre de Lévitique, il y a ce qu'on appelle le code de sainteté. Le code de sainteté, c'est un passage qui est rythmé par un verset qui revient un peu comme une ancienne, où Dieu dit « Soyez saints comme je suis saint ». Saint, ça veut dire séparé, ou ça veut dire différent. Ça veut dire « Ayez une façon de vivre qui est en résonance avec votre foi ». Et dans ce code de sainteté, il y a un chapitre qui est consacré aux questions, aux relations conjugales ou sexuelles, et dans lequel il y a un certain nombre d'interdits qui sont posés, l'interdit de l'inceste, l'interdit de la zoophilie, l'interdit d'adultère, et l'interdit de l'homosexualité. Enfin, l'homosexualité est présentée dans ce cadre-là comme étant quelque chose de pas juste aux yeux de Dieu. Donc ça, c'est le premier texte dans lequel on trouve les récits bibliques. Évidemment, devant un texte comme ça, il va falloir se poser les critères d'interprétation. Et peut-être de dire, mais là j'anticipe un tout petit peu, comment aujourd'hui entendons-nous cette notion de sainteté et comment nous pouvons l'actualiser. Donc ça, c'est le premier passage. Le second passage dans lequel l'expression de l'homosexualité est évoquée explicitement, c'est dans l'Épître aux Romains, où dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul s'adresse à... comment dire ? Il a à cœur de montrer que tout le monde est concerné par la question de Dieu, les croyants et les incroyants, et le dit de la façon suivante, en effet, une part de Dieu se révèle à travers la création. Quand on regarde la grandeur du ciel, l'étendue des océans, la création, la question divine est posée. Et Paul dit, ceux qui refusent cette interrogation sur Dieu, sur l'au-delà, ont eu une sorte de, il dit, d'intelligence pervertie, c'est-à-dire qu'il dit, ils ont mal compris les choses, ils ont inversé une sorte d'ordre naturel, l'ordre de la création, et notamment, ils se sont adonnés à l'homosexualité. Ça, c'est le second texte. Troisième texte qui évoque l'homosexualité, ce sont dans deux passages des Épîtres, dans l'Épître aux Corinthiens et dans la première Épître à Timothée, où là, Paul évoque toute une série de mauvais comportements, mais elle est toute une série de défauts. C'était une pratique qui était assez utilisée à cette époque-là, d'aligner comme ça une quinzaine de débordements. Alors il dit l'orgueil, la cupidité, la chose comme ça, enfin voilà, il en est bien. Et parmi tous ces défauts se trouve l'homosexualité. Évidemment, pour un contemporain, aujourd'hui, entendre ces textes-là, je dirais, ça pose deux questions. La première question, c'est que, évidemment, ça nous pose la question de l'interprétation de ces textes. Qu'en fait-on ? Et chacun de ces textes va devoir être interprété dans ces, dans les catégories dans lesquelles il a été donné. La seconde question que pose ces textes, c'est que quand même, et pour moi c'est une question, nous protestants, les protestants se disent attachés à la Bible, et à partir du moment où on est attaché à la Bible, je dirais, on doit prendre la Bible et écouter la Bible quand la Bible nous, je veux dire, quand elle nous plaît, quand le message qui est véhiculé correspond à ce qu'on croit, mais il ne faut pas trop évacuer trop vite la Bible qu'elle nous résiste. Quand on est dans la Bible, on a toujours l'impression, on a toujours la démarche qui consisterait à garder les textes qui nous plaisent et marginaliser, oublier les autres. Et je crois que la démarche protestante, c'est aussi se laisser interpeller, se laisser contester, se laisser gratter, j'allais dire, par la Bible, et donc ne pas évacuer trop vite ces textes-là. Mais quand j'ai dit ça, je dois dire que aussi, je dois avoir, j'évoquais tout à l'heure la question de l'interprétation, et de dire, quand on a une question à réfléchir, une question éthique, on peut effectivement chercher, piocher des versets dans les textes de loi, mais on doit aussi peut-être se repositionner par rapport à ce qui fonde cette problématique, cette réflexion. Et pour m'aider à réfléchir à cette question de l'homosexualité, moi je convoque deux textes qui ne parlent pas de l'homosexualité de façon directe, mais qui, à mon avis, sont des textes, cette fois-ci, qui sont centraux, essentiels, et à partir de laquelle je vais essayer de réfléchir à l'homosexualité. Ces deux textes, le premier, il se trouve dans les évangiles. Les évangiles, Jésus ne parle jamais de l'homosexualité, et une fois dans l'évangile, Jésus est interrogé sur la conjugalité. Jésus est interrogé, et quand Jésus est interrogé, il fait référence. Il dit, n'avez-vous pas vu qu'au commencement, Dieu les fit homme et femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est la réponse de Jésus. C'est que Jésus fait référence au texte de commencement. Et assez curieusement d'ailleurs, parce que dans sa réponse, il associe les deux premiers récits de la Genèse. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu les fit homme et femme, c'est le premier chapitre de la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, c'est le deuxième chapitre de la Genèse. Et dans ces deux versets que voit-on, lorsqu'il est interrogé sur la conjugalité, Jésus renvoie à une double différenciation. D'une part, la différenciation sexuée, Dieu au commencement les fit homme et femme, et d'autre part, la différenciation entre les générations, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que lorsque Jésus est interrogé sur la conjugalité, il cite un texte qui pose le sujet au sein de ces deux grandes différenciations, la différenciation sexuée et la différenciation des générations. Homme, femme, père, fils, ou parent, enfant. Donc ça, c'est le premier texte. Et par rapport à ce texte-là, ce texte-là interroge, je dirais, l'homosexualité. Le second texte que je convoquerai, c'est le passage de l'Épître aux Galates, qui est un texte qui est de l'apôtre Paul, qui est aussi totalement central dans la pensée de Paul. Les exégètes ont l'habitude de dire que, d'une certaine manière, la théologie de Paul se récapitule, si on devait la résumer dans un seul verset, c'est le verset du chapitre 3 de l'Épître aux Galates, qui dit... Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Ce qui signifie que, ce que dit Paul là, c'est que votre identité, il s'adresse à des chrétiens, hein, pour votre identité première vient du baptême, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous considérez enfant de Dieu, et cette parole-là, cette identité-là, est première, antérieure aux autres critères identitaires, que ce soit les identités sociales, hommes-femmes, les identités religieuses, juives-grecques, les identités sexuées, sociales, hommes-femmes. Hommes-femmes, juives-grecques, pardon, et les identités professionnelles, esclaves-libres. Hein. Et dis donc, je dirais que autant le texte de l'Évangile me permet de questionner l'homosexualité par rapport à cette question distinction entre les sexes, distinction entre les générations, autant le texte de Paul me rappelle que la personne est d'abord considérée comme sujet, enfant de Dieu, antérieurement à son sexe, sa profession, sa religion, et évidemment on pourrait dire aussi son identité sexuelle. Donc voilà, donc c'est dans la tension entre ces deux récits que je développerai ma réflexion éthique sur la question de l'homosexualité.
Alors Antoine, oui, j'ai bien entendu, effectivement, ces commandements qui sont dans l'Ancien Testament en particulier, mais aussi dans les lettres de Paul, avec des commandements qui sont très centrés sur une morale, finalement, qu'il faudrait, je dirais, suivre comme une casuistique, un petit peu. Je crois qu'effectivement, l'interprétation de ces passages est très difficile, et on peut dire vraiment des choses qui sont absolument horribles en lisant ce genre de passage à la lettre. Et en particulier les passages qui traitent de l'éthique, il faut vraiment les replacer dans le contexte, non pas comme une casuistique, c'est-à-dire des règles à appliquer, je dirais, en fonction, je dirais brutalement, mais plutôt comme une interrogation sur nos fidélités, vraiment pour s'interroger. Et la Bible est intéressante plus comme un récit qui nous apporte un questionnement que comme un livre, finalement, qui viendrait donner des règles très strictes. Alors en particulier sur l'homosexualité, moi j'ai l'impression, si tu veux, dans l'interprétation, qu'il faudrait plus le comprendre soit comme quelque chose de daté, soit comme quelque chose qui s'appuie sur un symbole de l'alliance très classique, où l'alliance entre Dieu et l'homme est souvent comparée au mariage de l'homme et d'une femme. Et par conséquent, on retrouve ce décalque finalement de l'image du mariage homme-femme sur l'alliance entre Dieu et l'homme. On le retrouve aussi chez Paul, où il dit, par conséquent, c'est normal, la femme sera soumise à l'homme et la femme n'aura pas son mot à dire, finalement, dans l'Église, parce que c'est l'homme qui cause, c'est l'homme qui a l'autorité. Pourquoi ? Eh bien, c'est un décalque du fait que, effectivement, il vaut mieux considérer que c'est Dieu, que c'est Christ le chef, et que nous, eh bien, nous sommes à l'écoute de cela, et que voilà. Donc je crois que si on applique brutalement, sans se poser ces questions, cette morale, on aboutit à des choses qui sont assez dures et assez, sans doute, à faux par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Et effectivement, il faut d'abord essayer de démythologiser un peu, non seulement ces textes, mais aussi ces commandements, mais aussi les replacer dans le contexte. On le voit qu'au point de vue de la conjugalité, eh bien Abraham était tout à fait polythéiste, avec des comportements qui nous font dresser les cheveux sur la tête aujourd'hui. Alors, le polygame, il n'était pas forcément monothéiste non plus, polygame. Et effectivement, la polygamie, dans un contexte où la vie est très dangereuse, où il y a des massacres, des maladies, des famines, la polygamie est efficace pour j'allais dire, pour pondre des gosses, c'est vrai. Et donc, il faut plutôt envoyer les hommes à la guerre, se faire tuer, puis les femmes, on les garde à la maison pour faire la vaisselle, bien protégées. Donc, à la limite, ce genre de schéma peut s'expliquer dans un contexte de grande fragilité physique. Ensuite, les choses évoluant, on comprend que la monogamie, eh bien, devient un modèle qui devient plus important, et qui devient quelque chose qui va être promu, car ça offre une meilleure qualité de relation. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont vécu la polygamie, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, extrêmement pénible pour les femmes, avec des jalousies terribles. Donc à mon avis, si vous voulez, on ne peut pas appliquer brutalement un mode de conjugalité et même une morale hors sol, indépendamment d'un contexte, d'une époque, des circonstances. Et par conséquent, je ne crois vraiment pas qu'on puisse appuyer sur ce genre de texte le fait de dire que l'homosexualité serait rejetée par la Bible d'une manière, je dirais, par nature. Sur quoi est-ce qu'il faudrait s'appuyer? Comme tu as dit, Jésus-Christ, il ne parle pas de l'homosexualité, il ne parle pas du mariage, en fait, il parle plutôt, dans le texte que tu cites, de la répudiation sur une question d'un intégriste de passage. Sur quoi est-ce que je m'appuierais plutôt? C'est sur le fait que Jésus dénonce l'individualisme pour aimer et servir, il rejette... finalement, l'hypocrisie des religieux qui empêchent les autres d'avancer avec des commandements qui sont à l'emporte-pièce et qui oppriment l'homme. Je vois Jésus appelé au prophétisme, c'est-à-dire à recevoir l'Esprit pour construire un cheminement nouveau. Je le vois dire, c'est pas le sabbat est pas fait pour l'homme, la religion, enfin non, c'est plutôt l'inverse, le sabbat est fait pour l'homme, c'est-à-dire est un outil, la religion, le rite, est fait pour aider l'homme, pour grandir l'homme, l'aider à faire se cheminer avec les autres et avec Dieu. Et l'homme n'est pas fait pour le sabbat, l'homme n'est pas fait pour la religion, c'est plutôt l'inverse. Et donc, si vous voulez, je vois là-dedans une invitation à un travail de cheminement pour inventer non seulement notre vivre ensemble, mais aussi nos rites, inventer une religion qui sera fidèle aujourd'hui et maintenant à ce que veut le Christ. Et donc on est invité, je crois, oui, à réfléchir sur ce qui est juste et bon aujourd'hui pour faire avancer. Alors ce que dit l'apôtre Paul, il dit « tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout ne construit pas ». Et ça, je crois que ce genre de choses, avec l'invitation du Christ à aimer Dieu et son prochain, à s'ouvrir à l'esprit pour inventer un cheminement nouveau, nous invite à réfléchir sur quelle conjugalité pour aujourd'hui, qu'est-ce qui construit ou qu'est-ce qui ne construit pas, qu'est-ce qui démolit dans le fait d'ouvrir le mariage, cette noble institution qui a fait ses preuves, qui effectivement construit quelque chose dans le cadre du couple hétérosexuel. Est-ce que c'est pas bon justement de voir, est-ce que ça ne construit pas quelque chose, ça ne construit pas la société avec cette ouverture? Et effectivement, il me semble que oui, car ce qui a apporté ses preuves dans le cadre du mariage homosexuel, dans le cadre du mariage hétérosexuel, il me semble que pour un couple homosexuel, cet effet du mariage, cet effet de ne pas se contenter sur l'instant, mais de chercher à construire dans des engagements, dans une fidélité, dans quelque chose de plus profond que le simple désir de l'instant, que le simple sentiment amoureux, eh bien ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte dans notre société, même pour un couple homosexuel, bien entendu, car eh bien, nous savons qu'il y a des homosexuels qui sont en couple, qui désirent s'engager. Il me semble que c'est une bonne idée, aujourd'hui et maintenant, d'ouvrir cela, et je le dis volontiers, par la foi en Dieu, par ma conviction théologique, mais aussi par ma rencontre avec ces couples homosexuels qu'on le rencontre, bien sûr, dans la vie civile et dans l'Église.
Tu peux prendre ça. Ça fonctionne ? Oui, c'était pour éviter de... Voilà. Oui, ça fonctionne très bien. Antoine va répondre. Une petite ponctuation comme ça. L'amitié amoureuse dans la Bible, ça n'existe pas ?
L'amitié amoureuse ?
Entre deux hommes, entre deux femmes.
Mais alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence, peut-être à David et Jonathan, qui habituellement, je dirais... Bien sûr que ça existe, mais ça n'est pas parce que ça existe que c'est souhaitable et que c'est bien. Enfin, je veux dire, on cite souvent l'exemple, et dans l'article que j'avais écrit, ça j'avais évoqué, souvent les personnes qui sont pour le mariage homosexuel évoquent l'exemple de David et Jonathan, et en disant qu'à un moment, on dit que Jonathan aima David comme lui-même. En général, quand on est face à ce texte, Si on est en faveur de l'homosexualité, on dit « David et Jonathan avaient une relation homosexuelle », et si on est contre, on dit « Non, c'était une amitié humaine, pas plus loin ». Laissez-moi vous dire que, à mes yeux, ça, c'est typiquement le faux débat, parce que si jamais, on n'en sait rien, le texte ne le dit pas, hein, mais quand bien même ce serait une relation homosexuelle, ça ne veut pas dire que c'est positif. Je veux dire par là que, dans l'histoire de David, lorsque David a voulu épouser la fille de Saül, Saül a demandé, enfin, David a apporté comme dot à son beau-père, vous savez quoi ? 200 prépuces de Philistins. Alors, est-ce que sous prétexte que David avait fait ça, il faudrait le reproduire aujourd'hui ? David, à la fin de ses jours, on dit qu'il était très âgé, qu'il était dans son lit, qu'il avait tout le temps froid. Et pour essayer de le réchauffer, on mettait des jeunes vierges dans son lit. Là encore, est-ce que c'est parce que ça se faisait à cette époque-là ? Il faut le mettre comme un modèle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le comportement de telle ou telle personne, la Bible peut parler de personnes qui ont une relation homosexuelle, mais c'est pas parce que, si elle en parle, c'est parce que l'homosexualité fait partie de la vie, enfin, je dirais. Mais ça n'est pas sous prétexte que David et Jonathan auraient eu une relation homosexuelle que ce soit un élément, recommandable, ou que ce soit un quelconque argument biblique en faveur du mariage.
Ça, c'est vrai.
Maintenant, voilà.
Non, je voudrais... Oui, quand il fait tuer Uri pour avoir sa femme Bethsabée, c'est pas non plus recommandable.
C'est pas terrible, David. Voilà.
C'est pas terrible, voilà. Non plus, bon. Comme comportement un peu trop hétérosexuel aussi.
Voilà. Alors, en revanche, Marc, ce que je voudrais dire, c'est... je voudrais quand même revenir sur ce texte de l'Évangile. Revenir sur ce texte de l'Évangile, justement parce que c'est un des rares passages où Jésus fait référence à l'ordre naturel. Hein ? Je ne veux dire pas là que la plupart du temps, quand Jésus est interrogé, il répond à ces questions à partir de critères spirituels, à partir de sa réinterprétation de la loi, à partir de la grâce, à partir de la liberté, à partir de toutes ces questions-là. Et quand il est interrogé sur la question de la conjugalité, et la question, c'est effectivement, c'était « A-t-on le droit de répudier sa femme ?» Donc, c'était sur les questions de en l'occurrence,
du divorce.
Hein, donc, justement, et à ce moment-là, curieusement, il répond sur un autre registre que tous les autres registres qu'il utilise dans la Bible, enfin, je crois, et il répond sur un registre où il renvoie à l'ordre créationnel, laissant entendre, et d'ailleurs là j'anticipe un tout petit peu sur une autre question de notre débat sur la question du mariage civil, mais nous y reviendrons tout à l'heure, laissant entendre que sur la question, d'une certaine manière, de la conjugalité, peut-être n'y a-t-il pas de parole spécifiquement chrétienne, enfin je veux dire, à dire là-dessus, mais il renvoie à l'ordre de la nature et à la distinction fondatrice pour une société, qui est la distinction entre hommes et femmes.
Sinon, c'est que moi, je ne vois pas du tout l'ordre naturel. Ici, deux versets bibliques qui font partie de l'institution du mariage, sans doute dans le mariage juif, mais dans n'importe quel mariage chrétien aussi. Et donc, comme souvent dans l'Évangile, il pousse les choses au comble pour montrer que la logique, je dirais, intégriste, étroite de ces contradicteurs mène à une aporie, en fait, mène à une impasse. Et donc, il part de ces deux textes, donc effectivement de la Genèse, qui était sans doute dans n'importe quelle liturgie du mariage, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, finalement, à mettre sous la dent la dent d'Adam pour le mariage. Donc il prend ces textes, voilà, comme je dirais un socle pour montrer l'aporie de la position des intégristes de l'époque. Bon, c'est une formule rhétorique. Je crois pas, il dit pas regardez dans le monde les abeilles, voilà, je vous explique comment on fait des enfants. Il parle pas de ça du tout. Il cite deux textes bibliques qui viennent servir de butoir dans une argumentation. Moi je trouve que c'est comme ça, mais.
On va peut-être continuer un petit peu sur notre lancée. Nous avions choisi d'aborder, dans un deuxième moment, mais il y a une continuité, la dimension anthropologique. Ça a déjà commencé, hein, l'anthropologie, c'est-à-dire engager une certaine idée de la nature humaine. Alors, même si on ne l'avait pas forcément explicitement dit dans la première annonce, je crois que là où les choses vraiment font débat, quand on parle de la possibilité d'un mariage effectivement pour tous, y compris de personnes du même sexe, c'est la question de savoir si, oui ou non, cela change complètement les conditions de la filiation. Hein, puisqu'on a parlé de la question de l'altérité entre les deux sexes, mais il y a la question de l'altérité entre les générations. Donc je vais peut-être commencer par Marc et lui poser la question, effectivement, comment est-ce que tu réagis vis-à-vis des objections qui sont faites la plupart du temps à la possibilité du mariage pour tous, justement, dans la mesure où cela mettrait en danger ce que l'on présente comme étant le droit de l'enfant à avoir un papa et une maman.
Alors déjà, pour l'anthropologie, donc ce que tu disais, c'est vrai que, est-ce qu'il y a, comme le disent certains, finalement, la loi naturelle, c'est qu'effectivement, un couple doit être homme et femme. Moi, il me semble que, effectivement, la majorité des couples sont des couples hommes et femmes, des couples hétérosexuels, et le désir porte plus l'homme vers la femme et la femme vers l'homme. Mais ce qui veut dire, ce qui est majoritaire, n'est pas forcément la seule normalité. Il y a des choses qui sont normales et minoritaires. Et en particulier dans la foi chrétienne, je pense, on est appelé plutôt à protéger le faible plutôt que de l'écrabouiller. Ça, c'est toujours le risque, si vous voulez, de la démocratie. C'est le moins mauvais système. Mais c'est vrai qu'une majorité peut décider que la minorité, il en a marre et qu'il la supprime. C'est un peu le risque. Alors, à contrario, je crois que notre société, je pense que là, elle a reçu quelque chose de l'Évangile en particulier, c'est cette attention à l'individu, c'est-à-dire à une minorité, même extrêmement minoritaire, pour se dire, peut-être qu'ils sont minoritaires, mais la société va les protéger et faire qu'ils ne vont pas être écrabouillés par la majorité. Voilà, il me semble, moi, que dans la nature, on remarque, dans toutes les nations, et y compris chez les animaux, il y a un pourcentage, il y a des comportements homosexuels qui existent et qui font partie de l'ordre naturel et qui sont donc normaux. Alors, ensuite, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a, dans ces textes que tu citais, mais qui sont dans la Genèse, et c'est là-dessus que je partais sur mon article, on dit « Dieu créa l'humanité, homme et femme ». Moi, il me semble, effectivement, c'est que la différence homme-femme, c'est la différence la plus visible qui saute aux yeux. Et donc, quand on voit un bébé naître, on ne sait pas s'il aura les yeux bleus, s'il va être musicien, mathématicien, je ne sais pas quoi. Par contre, on sait assez souvent, la plupart des cas, si c'est un garçon ou une fille. Donc, c'est la première différence qui saute aux yeux. Donc, quand la Bible dit « l'humanité est créée homme et femme », ça évoque une altérité, effectivement. Il y a de l'altérité dans l'humanité, on n'est pas tous sur le même moule et la différence sexuelle n'est pas rien du tout, c'est clair, c'est une différence qui est importante. Et les homosexuels ne s'y trompent absolument pas. D'ailleurs, s'ils s'y trompaient, si pour eux c'était égal les hommes et les femmes et qu'ils mélangeaient tout ça, eh bien, ils choisiraient sans doute, un homme choisirait une femme et une femme choisirait un homme parce que dans la société, ça se fait plus, c'est plus facile, c'est plus automatique. Et on voit combien cette tyrannie de la normalité a été une vraie tyrannie, c'est-à-dire on connaît tous des couples, des personnes qui se sont sentis obligés d'épouser quelqu'un de l'autre sexe et qui finalement, après un long cheminement, arrivent à accepter leur homosexualité, à l'assumer et vivent beaucoup plus épanouis en ayant libéré cette tyrannie de la normalité qu'il faudrait absolument vivre. Non, je crois que il y a là peut-être une altérité qui dérange notre société. Il y a des normalités qui sont plurielles. Et ça, c'est, dans un sens, c'est gênant, c'est difficile à entendre. Il peut y avoir quelqu'un qui ne pense pas comme nous, qui n'a pas le même désir que nous, et qui est pourtant quelqu'un de normal et qui a un comportement juste. Ce n'est pas forcément le cas, bien sûr, il y a des comportements déviants, mais là, je crois qu'il y a une normalité. Voilà. Alors ensuite, est-ce que dans le couple, tu disais, quand un enfant a, mettons, deux mamans, je crois que c'est évidemment fondamental qu'il sache que ce n'est pas comme ça qu'on fabrique des enfants, mais qu'il y a dans son idée qu'il y ait quand même cet imaginaire de ce que c'est que des géniteurs avec un homme et une femme. Et dans ce cas-là, si vous voulez, je pense que ça ne pose aucun problème psychologique particulier. Toutes les études que j'ai vues, et moi ça correspond plutôt à mon observation, les enfants qui sont dans des couples homosexuels n'ont pas de problème particulier, peut-être même, mais je pense que ça biaise un peu ces statistiques, si vous voulez, le couple homosexuel qui a choisi, malgré et contre tout, d'avoir des enfants dans la société, c'est souvent des couples assez, assez réfléchis, qui ont vraiment choisi ce qu'ils font, qui le vivent d'une manière assez profonde et vraie. Par conséquent, ça biaise un petit peu, si vous voulez, par rapport au couple hétéro qui n'a pas trop réfléchi, qui n'a même pas choisi s'il veut avoir un enfant ou pas, pense, ça arrive, qu'est-ce qu'on en fait, si vous voulez. Donc ça biaise un peu, le couple homo est peut-être un peu... Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait égal, et je comprends que l'enfant dans un couple homo soit finalement souvent très bien éduqué, en fait. Mais je vois pas, moi, vraiment de problème du tout d'altérité dans le couple homosexuel. C'est pas du tout un refus de l'autre sexe, bien entendu. C'est simplement son désir de cet homme, par exemple, porte vers un homme, de cette femme porte vers une femme. Et ce n'est pas du tout une négation de l'autre sexe, ce n'est pas une négation de l'altérité, comme bien entendu la Bible nous dit que l'individu personnel est extrêmement important et que Dieu ne confond pas tel homme avec tel autre homme. L'altérité entre deux hommes, deux mâles, est infiniment importante, ça change tout. Et moi qui ai épousé une femme asiatique, si vous voulez, je sens que cette altérité des cultures, de la langue, même de la... est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a une différence sexuelle aussi, mais il y a tout un tas d'autres différences. L'altérité existe vraiment dans le couple homosexuel, bien entendu.
Bon, alors d'abord, je voudrais dire que fondamentalement, effectivement, le rapport à l'autre est la base de l'éthique. Hein ? La base de l'éthique, c'est qu'est-ce que je fais de l'autre différent de moi-même dans mon environnement. Et ça, c'est de façon la plus générale possible. Je veux dire par là que l'attitude, j'allais dire, naturelle du sujet, c'est d'utiliser l'autre pour ce que l'autre peut lui rapporter, d'instrumentaliser l'autre, de faire de l'autre un objet. Ça, c'est notre attitude naturelle. Et puis, la démarche de foi, la démarche d'éthique, c'est de m'apercevoir que l'autre est autre, que l'autre est différent, que l'autre me résiste dans sa différence. Et donc la base du comportement, c'est quelle place je laisse à l'autre dans cette différence, et je dirais dans ce lieu où il me résiste. Quand j'étais à la faculté de théologie, notre professeur d'éthique disait, et je ne manque pas de le faire, quand vous préparez des mariages, dites aux fiancés, n'aimez pas votre conjoint pour ses qualités, car alors ce n'est pas l'autre que vous aimez, mais les qualités qui sont en lui. Aimez-le pour ses défauts. Pour là où il vous énerve, vous savez, tous les couples, c'est ça, ces petits trucs qui vous agacent. Hein. Si vous l'aimez pour ça, alors vous l'aimerez lui en vérité, vous l'aimerez là où il vous résiste. Hein. Donc ça, la base de l'éthique, comment j'accepte l'autre dans sa différence. Et alors, la question fondamentale, c'est de dire, bien sûr que dans un couple homosexualité, il y a de l'altérité, je veux dire, c'est pas de clones, c'est pas de jumeaux, et c'est de différents. Mais que fait-on de l'altérité sexuée, homme-femme ? Est-ce qu'on en fait une altérité fondatrice ? Et si on en fait une altérité fondatrice, alors l'homosexualité doit être interrogée sur son rapport à l'altérité. Et en disant, on dirait de l'homosexualité, est-ce qu'il n'y a pas dans l'homosexualité une altérité seconde, c'est-à-dire une altérité moindre ? Ou alors dit-on que... il y a des hommes et il y a des femmes, comme il y a des grands et des petits, comme il y a des Français et des Asiatiques, comme il y a des yeux bleus et des yeux bruns, et que finalement, ce n'est qu'une différence parmi d'autres. Et selon la réponse que l'on donnera à cette question-là, alors la question que nous pourrons poser à l'homosexualité sera différente. Alors, je n'ai pas envie de trancher en disant « voilà quelle est la vérité », mais j'ai envie de donner des éléments de réflexion. Hein. Et en tout cas, cette réflexion-là, cette donnée-là, me conduira à interroger interroger l'homosexualité sur cette question de l'altérité. N'y a-t-il pas, c'est une question, n'y a-t-il pas dans le couple homosexuel, homo, le terme vient le même, hein, je veux dire, n'y a-t-il pas une carence d'altérité? Une carence d'altérité. Voilà. Donc ça, c'est ma question. Maintenant, pour la question des enfants, je veux dire que la différence de Marx, j'ai pas beaucoup d'expérience d'avoir rencontré des enfants qui ont été élevés par des couples homosexuels, donc je peux pas parler d'expérience. En revanche, ce que je sais, et ce qui est un peu contradictoire, c'est que aujourd'hui, une des grandes revendications quand même de la part des enfants, et notamment des enfants adoptés, c'est de connaître leur origine, et qu'aujourd'hui, où d'un côté de la société, on a l'impression qu'il n'y a rien de plus important que de connaître ses origines, et est-ce que dans le cas d'un couple homosexuel, là, il n'y a pas, je dirais, non pas un trouble, enfin, une complexification très forte de l'origine. Et la seconde chose que je veux dire, et là que je dirais un jour, si il y a un couple homosexuel qui m'a interrogé justement sur qui avait un projet d'adoption et qui m'a posé la question, et que moi la seule réponse que je lui ai faite, je lui ai dit, écoutez, élever des enfants c'est difficile, élever des enfants adoptés c'est plus difficile encore. C'est plus difficile encore parce que dans le cas d'un enfant adopté, il y a au commencement de son histoire une rupture, et parfois c'est très 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 difficile de revenir sur cette rupture. Et je sais, et là j'en ai autour de moi, que parmi les enfants adoptés, il y a vraiment plus que parmi les enfants entre guillemets naturels, des difficultés à se poser dans la société. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une réalité. Et je vais vous dire quelque chose, moi quand j'étais jeune ménage, il s'avère que dans mon environnement, parmi mes amis proches, il y a eu plusieurs qui ont adopté des enfants, et que quand j'avais 30 ans, je trouvais ça très généreux et formidable d'avoir une famille accueillante, ouverte, et que d'adopter. Aujourd'hui, où je suis 20 ans plus tard et que je vois ce que ces enfants sont devenus, certains vont bien, mais beaucoup quand même, on sent qu'il y a quelque chose de lourd dans leur histoire, et tout l'amour des parents, parfois, n'arrive pas à surmonter cette espèce de brisure qu'il peut y avoir au début d'une vie. Et donc, moi, je serai homosexuel. Avant d'adopter un enfant, sachant ce que je sais aujourd'hui, je m'interrogerai des vraies questions. Hein.
Mais comme les hétéros, finalement. Et puis, la procréation assistée, c'est quand même une sacrée galère aussi. C'est pas évident du tout, hein, vous savez. Mais cela dit, je lui crois, de toute façon, bon... La vie, c'est... On part tous avec des handicaps, avec des difficultés. Et ça, je crois qu'il faut accepter qu'on ne soit pas dans the cas idéal. Oui, par exemple, il y a un tel a tel problème. Oui, on a des parents qui sont ceci, qui sont cela. Oui, on a ces ruptures, ces difficultés. On le sait que le cadavre dans le placard qui existait 3 générations avant continue à perturber. S'il n'y a pas eu un travail dessus, eh bien, 1, 2, 3 générations... Mais on a tous finalement ces handicaps, ces difficultés. Ensuite, la question, eh bien, c'est de savoir quel travail on fait dessus, qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage qu'on reçoit. Donc, c'est des questions, je crois, qui se posent pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Alors, cela dit, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que peut-être qu'il y a... une difficulté supplémentaire avec ce déficit d'altérité qu'il existe un tout petit peu, je dirais quand même, un tout petit peu. Mais, de toute façon, le mariage, c'est gérer une identité et une altérité. Souvent, dans les couples qui arrivent pour qu'on prépare leur mariage, il y a des couples, si vous voyez, qui sont, pas deux clones, mais des gens qui ont le même logiciel. Et puis, il y a des couples qui arrivent, ils ont deux logiciels complètement différents, quoi. Et l'un comme l'autre peuvent marcher. C'est assez, voilà, il y a différents modèles de couple, et donc on est tous de toute façon entre l'identité et l'altérité, et à gérer cela, le différence de rythme de l'autre, le différence de goût, d'approche, de façon d'être, et ça fait partie du fun du truc, quoi. Et je dirais que même le travail de préparation de mariage, est un vrai temps de travail sur ce genre de choses, à mon avis, avec le pasteur, avec les prêtres, mais surtout les mariés entre eux, qui vont se chercher un texte biblique, qui discutent ce qui fait alliance entre eux. Et finalement, on essaye là de les apprendre à se poser des questions, à réfléchir, à s'entendre, à s'écouter, à discuter, à philosopher finalement. Eh bien, ce travail, je trouve que c'est intéressant justement, ce travail sur l'altérité, l'identité. Et je crois que si on peut accepter que les homosexuels puissent avoir ce travail, en vue d'un mariage, puissent avoir ces temps, dont on sait que ça apporte des choses au couple finalement, pour souder, pour ce travail sur la qualité d'être, quoi, de cette improbable alliance entre deux personnes finalement. Je pense que c'est bien de pouvoir leur offrir ça. On sait que ça offre un plus, à l'état de couple, peut-être pas à tous, mais bon, je crois qu'on peut, si des gens le demandent, sont partants, on peut leur offrir ça.
On a longtemps, je dirais, persécuté ou attaqué les homosexuels en disant que, évidemment, l'homosexualité menaçait l'institution du mariage. Actuellement, des homosexuels en France désirent se marier et on leur dit « Ah non, c'est impossible ». Alors, à partir de cette boutade, je vous propose de réfléchir à la place du mariage et peut-être parce que leur tourne, que vous êtes à la fois très disert et très attentif aux questions de la salle, je vous propose dans un même élan de réfléchir à la question de la bénédiction religieuse. Antoine.
Alors, moi je dirais fondamentalement, j'ai évoqué ma réserve par rapport à la question du mariage civil. En introduction, je voudrais dire quelque chose, c'est que, à la limite, cette question-là est une question vis-à-vis de laquelle les théologiens peuvent dire quelque chose, mais que le mariage civil, ça relève de la société, ça relève du politique. L'Église n'a pas à imposer quoi que ce soit aux politiques. Cela dit, l'Église, comme tout le monde, a le droit d'émettre son opinion. Et moi, je vais dire ma réserve par rapport au mariage civil homosexuel. Ma réserve, c'est que le mariage civil fait comme si la sexualité homosexuelle et la sexualité hétérosexuelle étaient du même registre, étaient du même ordre. L'homosexualité existe, je suis ni pour ni contre, elle est. Mais en revanche, je crois qu'un des problèmes de notre société, c'est la confusion. Un des problèmes, c'est de tout mettre au même niveau et c'est de dire tout est pareil, les hommes, les femmes, les grands, les petits, les... Enfin, je veux dire que... Et il me semble que l'ordre d'une société repose sur un certain nombre de distinctions. Et dans ces distinctions, moi, je serais tout à fait favorable à ce que on accorde aux couples homosexuels les droits qu'ils peuvent avoir pour avoir des questions de protection juridique. Ça, je veux dire que ce soit accordé, ça ne me pose pas de problème. Je serais même d'accord pour que on manifeste d'une certaine façon ou une autre l'union homosexuelle. Cela dit, à mes yeux, pourquoi vouloir l'assimiler à l'hétérosexualité? Pourquoi vouloir dire que c'est la même chose alors qu'à mon avis, c'est d'un registre différent, symboliquement? Et c'est dans ce sens, vous savez que la semaine dernière, la Fédération protestante a produit un texte, et dans ce texte-là, elle dit vraiment ça. Elle dit, la question essentielle, c'est de dire que, je vais vous lire une phrase, hein, le corps social demande à être structuré symboliquement et réellement par la présentation et l'acceptation d'une différence originelle et fondamentale. Et à partir de là, d'une sorte d'ordre symbolique pour une société et qui permet de se structurer, de savoir qui est qui fait quoi, et je dirais, et que d'assimiler l'hétérosexualité à l'homosexualité, à mon avis, cela crée plus de la confusion que de la reconnaissance. Et que autant, je dirais que l'homosexualité a besoin d'une reconnaissance et que ce moment que la République invente un type d'union qui soit spécifique à l'homosexualité, là je serais tout à fait prêt à y réfléchir. En revanche, il ne me semble pas, voilà, pas souhaitable que sous une structure unique qui s'appelle mariage, on évoque différents types de couples symboliquement. Ça, c'est au niveau du mariage civil. Maintenant, ce que j'ai écrit ici, et de façon habituellement, on dit, par exemple, les chrétiens, les catholiques avancés diraient on est plutôt pour le mariage civil, mais pas pour le mariage religieux. Moi, je voudrais presque inverser la chose. Je dirais que pour des raisons d'organisation, je serais réservé par rapport à un mariage civil, par rapport à voilà, une structure, organisation de la société. En revanche, et là je vais y avoir un point sur lequel je suis tout à fait en résonance avec, avec Marc, c'est sur le thème est-ce que en Église nous pouvons réfléchir à un accompagnement des couples homosexuels. Et par rapport à ça, ma question est la suivante, c'est de dire y a-t-il une éthique de l'homosexualité ? Je veux dire par là que par rapport à un sujet homosexuel, y a-t-il une façon plus chrétienne, entre guillemets, ou plus souhaitable de vivre son homosexualité que d'autres ? Je crois que oui. Et qu'à partir de ce moment-là, je crois qu'à partir du moment où je le crois, l'Église se doit aussi de le signifier. C'est pour ça que personnellement, je ne serais pas opposé à ce que l'Église réfléchisse à des formes de bénédiction, des formes de reconnaissance qu'elle peut accorder à une conjugalité homosexuelle, mais à mes yeux, c'est d'un registre différent que le mariage hétérosexuel.
Alors je comprends ce que tu dis. Cela dit, je pense que je fais pas le lien en fait, si tu veux. D'accord, c'est pas pareil une sexualité homosexuelle, une sexualité hétérosexuelle. D'ailleurs, ni les homosexuels ni les hétérosexuels ne font la confusion. Parce que moi, on ne me convaincra pas de devenir homosexuel. Et d'ailleurs, l'homosexualité, ce n'est pas quelque chose qui s'attrape comme une maladie, ce n'est pas quelque chose qui s'attrape comme une conviction, une opinion, ou ce n'est pas quelque chose qui se transmet comme si les enfants d'homosexuels seraient homosexuels. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il n'y a de toute façon pas confusion, ni de la part des homosexuels, ni de la part des hétérosexuels. Mais moi, ce qui me semble dangereux, c'est de dire finalement que ça ne se vaut pas au sens où il y en a un qui vaudrait plus que l'autre. Et c'est un petit peu le risque du truc, c'est de dire, voilà, il y en a un qui est plus noble, donc ça mérite le label mariage, et puis l'autre, bon, c'est bon, allez, d'accord, il faut bien accepter qu'ils aient un truc. Ça me semble dangereux, parce que si tu veux, je pense à tout d'un coup à cette parabole de Jésus où il dit, vous êtes la lumière du monde, une lampe, vous voyez, peut briller. Quelque chose peut l'obscurcir, c'est si on la met sous un boisseau, c'est-à-dire c'est sous une mesure de grain. La seule chose qui peut obscurcir la lumière qui est en chacun, c'est quand on se met à vouloir la mesurer finalement, de dire voilà, lui il vaut plus qu'une autre, telle lumière de telle personne vaut plus que la lumière de telle autre, non. Je crois que si on se met à se dire l'hétérosexualité vaut plus que l'homosexualité ou que l'autre, bon d'accord, faut accepter, il y en a qui le sont, mais enfin c'est un peu moins bien, je pense que là on tombe dans quelque chose de très dangereux. Par contre, il me semble que le fait qu'il y ait justement deux sexualités, deux conjugalités différentes, hétérosexuelles, homosexuelles, je veux dire, qui ne sont pas confondues, personne ne confond, eh bien c'est un plus. C'est un plus, pourquoi ? Eh bien parce que ça brise cette tyrannie de la normalité, voilà. Et cette tyrannie, elle pèse même sur les couples hétéros. Voilà, il faut être... un couple avec le même niveau social. Moi, tu sais bien, quand on était jeune, si moi j'avais ramené une fille catholique à la maison, on ne m'aurait pas excommunié, on ne m'aurait pas déshérité, mais ce n'était pas tout à fait ça, quoi. Si c'était une fille pas le même milieu, bon, d'accord, parce que tu l'aimes, mais enfin, ça, tu sais, c'est difficile, on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes modes de vie. Et puis, il faut avoir deux enfants, il faut un garçon, une fille, et si on n'a pas le projet d'avoir des enfants, ah ben non, alors vous êtes égoïste, parce que vous ne voulez pas avoir d'enfants. Mais alors quoi, je suis égoïste, on peut avoir d'autres fécondités, on peut avoir d'autres vocations, d'autres projets de vie que de faire des gosses. Il y en a qui le font très bien, si on ne le sent pas, déjà c'est dur d'élever des enfants quand on les a choisis, s'il faut en plus se forcer, ça devient insupportable, moi je crois. Donc je crois que ça, le fait qu'il y ait plusieurs conjugalités, sans confusion, sans mélange, comme dirait l'autre, eh bien ça élargit le panel, ça ouvre un espace de liberté. Et puis, quand je vois, ah là là, l'institution du mariage, la confusion homme-femme, et toute la société qui fout le camp, je veux dire, les homosexuels, il y en a 5%, il n'y en a que la moitié qui sont en couple. Donc, effectivement, je crois que ça mérite qu'on les encourage à être un peu plus en couple que dans le simple liaison sentimentale ou le désir de l'instant. Sur ceux qui sont en couple, il n'y en a même peut-être pas la moitié qui voudraient se marier. Bref, on arrive peut-être à 1% de mariages homosexuels par rapport à 99 mariages hétéros, il y aura un mariage homo. La société ne va pas basculer. Quand j'appelais au prophétisme suite à Jésus qui nous dit « recevez l'Esprit Saint », ce n'est pas pour autant qu'on doit être les prophètes à la Philippulus. Vous savez, comme dans Tintin, « la fin du monde arrive si vous ne vous repentez pas ». Franchement, s'il y a 1% de mariages qui sont homosexuels, ça ouvre un espace de liberté pour tous. Et puis ça fait déjà 1% de plus de gens dans la société qui disent ben, plutôt que de vivre simplement sur le sentiment amoureux en me demandant si le matin j'aime encore la personne qui est à côté de moi, vivre dans l'engagement en se demandant qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, quel projet, etc. Eh bien ça va dans le sens, moi oui, du mariage. Ça, au contraire, ça promeut le mariage pour tous, oui, pour les hétéros comme pour les homos. Tant mieux s'il y a 1% de plus qui acceptent ce beau projet qu'est l'union consacrée. Amen.
L'homosexualité, étoile mystérieuse.
Il y en a qui ont des lettres, ils connaissent quel Tintin.
pour être vite, trois tout petits détails. Premier détail, il y a une chose que je veux dire qui est très importante et qu'on n'a pas dite jusqu'à maintenant, c'est que il ne faut pas imaginer l'homosexualité et l'hétérosexualité comme des catégories parfaitement étanches.
Oui, ça, c'est
je veux dire, il n'y a pas 95% et 5%, il y a. Je dirais qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité, pour complexifier un peu la question. Hein. Je crois que l'homosexualité féminine n'est pas du même registre que l'homosexualité masculine, et dans chacune de ces homosexualités, il y a des formes différentes. Je veux dire, et moi, j'ai rencontré, quand j'ai travaillé sur ce sujet, des personnes qui me disent aussi loin que je me souvienne dans mon histoire, je suis homosexuel. D'autres qui ont eu des homosexualités, j'ai la fille d'un couple ami par exemple qui est rentrée dans une relation homosexuelle parce qu'elle s'était sentie méprisée par les hommes, enfin je veux dire, elle a eu des expériences très malheureuses et elle avait trouvé dans l'homosexualité une sexualité qui la respectait dans sa féminité, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, il y a plein d'homosexualités différentes et ce sont des catégories qui ne sont pas étanches. La seconde chose que je veux dire, et alors là que je voudrais fortement souligner, c'est que effectivement c'est un sujet sur lequel on s'excite beaucoup. Je peux vous dire, et ça Frédéric en est témoin, que dans le journal on reçoit beaucoup 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 de contributions et que comme si c'est, alors que je suis tout à fait d'accord avec Marc pour dire que ça reste quand même un sujet marginal. J'avais lu, alors je ne me rappelle plus, dans une église, je ne sais pas si c'était aux Pays-Bas ou en Allemagne, l'histoire suivante où une église s'était posé la question de savoir est-ce qu'elle devait bénir les couples homosexuels, que pendant 6 ou 7 ans, ils avaient fait des colloques, des réunions, ils avaient réfléchi, ils avaient convoqué, etc. Au bout de 7 ans de réflexion, ils ont dit « ça y est, on est prêt à bénir la mariage homosexuelle », et la demande, zéro, j'exagère à peine, enfin epsilonesque. Hein, c'est-à-dire que la demande est vraiment très infime, donc on s'excite beaucoup sur quelque chose où la demande est très infime. Cela étant, si la question excite beaucoup et si cette question intéresse, c'est justement parce qu'au-delà de la demande, ça pose des questions fondamentales. Et ça pose des questions d'anthropologie, des questions d'éthique, des questions d'interprétation de la Bible, qui sont des questions, et je crois que c'est la question pour laquelle les gens s'excitent beaucoup. Par rapport à ce que tu disais, Marc, qu'une chose, je crois que quand j'appelle à la distinction, il faut savoir, et il me semble que ça c'est quand même un des éléments de l'éthique aussi, que distinction ne veut pas dire hiérarchie, et que quand on dit de séparer les différentes modes et les différentes compréhensions, ça ne veut pas dire qu'il y a la bien, il y a la pas bien, mais ça veut dire que c'est l'ordre de la création que les choses soient distinguées. Voilà.
Mais peut-être une question à Antoine, et puis après on passera je crois, la parole au public. Le fait que, par exemple, les hommes et les femmes, ce qui est relativement récent hein, dans l'histoire de l'humanité, le fait que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, est-ce que ça signifie qu'on confond les hommes et les femmes ?
Oui, ça, c'est une bonne question. Merci, Philippe.
Euh, Je dirais non, mais est-ce que les hommes et les femmes aient les mêmes droits ? Est-ce à dire que les hommes et les femmes, c'est la même chose ? Est-ce à dire qu'ils sont interchangeables ? Est-ce à dire que, je veux dire, à ce moment-là, il ne faudrait pas du tout s'occuper des questions de parité, je veux dire, s'il n'y a pas une différenciation. Et ce qui fait la richesse, je crois, de notre humanité, c'est que justement, c'est sur cette complémentarité et cette différenciation entre les hommes et les femmes. Et je crois qu'à confondre les différents types de sexualité, on en vient à réduire cette distinction-là. Et qui, je crois, cette distinction-là, elle est fondatrice et structurante.
Mais on les appelait tous les deux mariages, est-ce qu'on les confond ? Je ne crois pas, moi, je ne vois pas. En les appelant tous les deux mariages, en appelant mariage un mariage d'un couple homo ou un couple hétéro, est-ce qu'on les confond ? Je n'ai pas du tout l'impression, parce que dans l'imaginaire de chacun, dans la manière de se projeter, il n'y a aucune confusion. Mais je pense que ce débat a dû avoir le même quand il s'agit de savoir est-ce qu'on accepte que des femmes soient pasteurs. On a dû dire oui, mais si...
Mais ça vous laisse quand même trois quarts d'heure, hein.
Bonjour, bonsoir, Alain Bonnet, père adoptif, et quand je dis père, je le mets entre guillemets, puisque le mariage pour tous, dans la prochaine loi qui se prépare, supprimerait les notions de père et mère pour les remplacer par parent 1, parent 2, vous n'en avez pas parlé, mais il faut le souligner, tout comme les aïeuls, on supprime le masculin, on supprime le féminin, et ça devient pluriel. Je voulais juste faire une remarque. La Fédération et l'ERF, vous n'en avez pas parlé, sont radicalement, enfin, ils ont pris une position très claire contre le mariage pour tous. Deuxième chose, on n'a pas beaucoup parlé de l'intérêt de l'enfant. Et vous savez que tout le grand débat, c'est autour de l'intérêt de l'enfant. Alors, je vais vous poser deux questions. La première, c'est les couples homosexuels, à un moment donné, ont un désir d'enfant, donc veulent adopter. Sauf les femmes qui peuvent, depuis la guerre, adopter, puisque l'adoption par les célibataires est autorisée depuis la guerre, où il y avait plus d'enfants que de parents adoptifs. Donc les femmes peuvent très bien adopter, et puis, avec, sans dire la vérité, ramener l'enfant dans un foyer homosexuel. Mais une grosse question, comment, d'après vous, la commission d'adoption va-t-elle faire pour dire à un enfant, pour dire effectivement à un enfant, toi, tu auras des parents, deux hommes ou deux femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et vous avez donné un ratio 1 pour 100, à un moment donné, comment on va faire ? C'est le first in, first out, c'est le dossier qui arrive. Voilà, c'est un dossier comme un autre. Et à un moment donné, cet enfant-là, qui était dans la pouponnière à côté de tous les autres enfants...
Donc votre question, cher ami.
Donc la question, comment fera la commission d'adoption pour trancher ? Selon quels critères elle va confier un enfant à deux hommes ou deux femmes ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez ? Et ça, c'est, je m'adresse aux deux débatteurs... Qu'est-ce que vous pensez qu'un enfant qui est adopté... Alors là, ça a été bien souligné, c'est la violence de la rupture de l'enfant abandonné par ses parents biologiques. Non seulement il doit gérer son adolescence, ça c'est tous les enfants naturels, c'est un passage difficile souvent. En plus, il doit gérer son histoire d'adoption. Et la troisième couche qu'on lui rajoute, il doit gérer le fait d'être adopté par deux hommes et deux femmes, et pourquoi deux hommes, et pourquoi deux femmes ? Voilà deux questions fondamentales. Merci.
Alors moi, personnellement, effectivement, la Fédération protestante et l'Église réformée ont pris une position très claire contre le mariage pour tous. Et moi, je trouve que c'est toujours assez étonnant, si vous voulez, parce qu'ils savent très bien, ces personnes qui sont dans les commissions nationales, que le débat traverse toutes les églises et en particulier l'Église réformée de France. Par conséquent, je ne sais pas très bien, effectivement, là, quel refus d'altérité il peut y avoir, quel refus du débat dans leur Église. C'est assez étrange et surréaliste. Cela dit, je préférerais qu'ils assument, ben, dans notre Église, il y a 60% des gens qui pensent ceci, 40% qui pensent cela. Et je crois que ce serait audible et ce serait quelque chose de particulièrement respectueux et fidèle au protestantisme. Au lieu de cela, ils choisissent de donner une opinion tranchée. Je trouve que c'est effectivement quelque chose qui est décevant et qui n'est pas très protestant. Cela dit, c'est pas très grave parce que, de toute façon, l'avis, c'est l'avis du Conseil national ou du Conseil de la Fédération qui ne s'impose absolument pas aux fidèles qui sont là et qui ne représente évidemment pas l'opinion des fidèles de ces églises, mais l'opinion du comité, de la commission truc ou du machin. Alors ensuite, pour l'intérêt de l'enfant, moi je ne pense pas, si vous voulez, qu'un enfant élevé dans un couple homosexuel est forcément bien plus mal loti qu'un enfant dans un couple hétéro, tant s'en faut. Et donc quand on parle de l'intérêt de l'enfant, oui, je crois que c'est fondamental, mais je ne suis pas certain, si vous voulez, franchement, que l'intérêt de l'enfant soit forcément du côté du couple hétéro. Oui, il y a des couples, par exemple, le service qui vérifie pour l'adoption, la famille, eh bien, il y a des familles qui seront peut-être un peu trop pauvres, des parents qui ne seront pas très bien éduqués, avec des problèmes peut-être un peu de couple. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire ? L'enfant, on va lui confier un enfant, par exemple, si on pense que c'est quand même viable. Eh bien, cet enfant aura moins de chance au départ qu'un autre. Mais comment voulez-vous ? C'est comme ça la vie. On part avec un peu des handicaps. Eh bien, il faudra les gérer, faire avec. Oui, exactement. L'homosexualité des parents là-dedans, si c'est fait, si c'est effectivement, c'est expliqué, si on explique que l'enfant est fabriqué génétiquement par un homme et une femme et pas par deux femmes ensemble, eh bien, il fera ça avec, pour vérifier, si vous voulez, cette intuition que j'avais après avoir rencontré, voire baptisé, bien entendu, des enfants de couples homosexuels. Ça ne pose pas de problème, évidemment, dans notre Église, pour personne. Eh bien, j'ai vérifié en téléphonant à ma grande sœur, qui est pédopsychiatre, qui voit des centaines d'enfants, aussi bien en cabinet qu'à l'hôpital. Et elle m'a confirmé cet après-midi que c'était une question, si vous voulez, de représentation mentale pour l'enfant, de parents géniteurs, de ce que c'est que des géniteurs, etc. Et que ça ne pose pas de problème particulier, de lourde psychanalyse, d'avoir effectivement deux parents homosexuels.
Alors, d'abord, je voudrais juste faire une toute petite précision. À ma connaissance, le Conseil national de l'Église réformée de France ne s'est pas prononcé sur la question. Ce n'est que la Fédération protestante. Alors, dans le Conseil de la Fédération protestante, il y a des représentants de l'ERF, mais l'Église réformée de France ne s'est pas prononcée officiellement sur le sujet.
Je ne sais pas, c'est Le Monde qui dit que, l'article du Monde qui dit que, effectivement, Claude Batty annonçait, c'était la semaine dernière, annonçait quelque chose et que Laurent Schlumberger disait lui aussi qu'il était contre. Alors je ne sais pas comment Le Monde l'a su ça, mais...
Peut-être que Laurent Schlumberger, enfin que le président du Conseil national de l'Église réformée de France disait cela, mais en tout cas, officiellement, l'Église réformée de France, on sait qu'il y a des instances qui sont appelés à qui parlent en son nom et que cette instance ne s'est pas prononcée officiellement.
Ah bon, ça me rassure un peu.
Voilà, ça c'est la première chose. Pardon ? Attends, je finis de répondre juste. Hein.
Je peux attendre.
Oui, vous voulez intervenir sur ce sujet-là ? Non, vous pouvez attendre, d'accord. Voilà, donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, néanmoins, à mes yeux, je dirais que. Je ne suis pas, je suis quand même un bon protestant et que c'est pas la Fédération protestante qui pense pour moi, mais le fait quand même que la Fédération protestante dise quelque chose, au moins je dois y prêter une attention sérieuse et m'interroger en disant, n'y a-t-il pas là une parole que je suis invité à réfléchir profondément. Je veux dire, je suis appelé j'accorde plus d'autorité. Alors, plus d'autorité, ça ne veut pas dire que je suis à genoux et que j'accepte tout ce que dit la fédération protestante, mais quand une fédération qui évoque toute la pluralité du protestantisme prend une position, je dirais que je l'écoute de façon particulière, et de même que, je dirais, quand plusieurs instances, d'instances religieuses, et que avec, je dirais, je ne suis pas non plus totalement, indifférent à la façon dont le catholicisme, à la façon dont les évangéliques, à la façon dont le judaïsme, à la façon dont l'islam, à la façon dont, évoque la question. Alors, ça ne veut pas dire que j'obéis, mais ça veut dire que ça me donne à penser quand même. Hein, et que le fait qu'il y ait quand même, dans ces registres-là, une certaine unanimité pour s'interroger sur le bien fondé de cette perspective-là, je me dois d'y apporter une attention particulière. Sur la question de l'adoption, j'ai déjà dit tout à l'heure ce que j'en pensais, j'ai pas grand-chose à ajouter, simplement à souligner fortement que le processus d'adoption, c'est vraiment un processus difficile, et c'est vrai que sans avoir ni de statistiques, ni de... Mais c'est vrai que, connaissant les difficultés de l'adoption, moi, je serais très réservé à l'adoption homosexuelle. On m'a dit l'autre jour que, d'ailleurs, je sais que, par exemple, la situation est possible en Belgique, mais qu'il y a très, 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 très peu d'adoptions homosexuelles, parce que, dans les pays occidentaux, l'immense majorité des enfants adoptés sont des enfants qui sont adoptés dans des pays du Sud, hein, et que les pays du Sud refusent de donner leurs enfants à des couples homosexuels. Donc, ce n'est pas du fait de la loi française, mais que, de ce fait-là, ça reste quand même extrêmement marginal.
Oui, avant de poser ma question, je voudrais simplement donner un petit témoignage. Il se trouve que je connais dans mon entourage familial proche deux enfants adoptés qui sont maintenant de jeunes adultes auxquels j'ai posé la question. La réponse dans un cas a été ironique, dans l'autre elle a été plutôt violente. C'est inacceptable, totalement inacceptable. Ça, c'est premier. La question que je voudrais poser maintenant, c'est quel nom portera l'enfant ? Dans notre société, à part les enfants naturels, quand il y a un père et une mère, c'est à 99,9% le nom du père que l'enfant prend. Dans le cas d'une adoption par un couple homosexuel, quel nom faudra-t-il donner ? Ça pose, à mon avis, un problème très important. Le nom que l'on porte n'est pas un élément neutre dans la constitution, dans la formation de la personnalité d'un enfant.
Sur la question du nom, je suppose que le législateur se prononcera le jour où la question se posera. D'ailleurs, je crois que pour l'instant, la question est encore en débat, hein, alors que le mariage pour tous va se faire dans les semaines qui viennent, enfin, va être décidé, la question de l'adoption est encore en débat. Hein, et donc, la question n'est pas tranchée. J'ignore totalement quelle est la solution qui sera retenue. En revanche, derrière la question, bien évidemment, ce qui se profile, c'est le nom, pas simplement pas une façon de nommer quelqu'un, mais le nom, une façon de définir l'identité d'une personne. Hein, je veux dire, on est identifié par son nom. Je veux dire, son nom, c'est pas simplement une façon pratique de pouvoir appeler quelqu'un, mais c'est une façon de dire profondément ce qu'on est. Donc ça pose la question de l'identité, ça pose la question de l'identité de ses enfants, et je peux que répéter ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'effectivement, par rapport aux questions d'identité, l'adoption est une difficulté, et je crois qu'effectivement, l'adoption par un couple homosexuel ajoute de la difficulté à la difficulté.
Je voulais poser une question surtout à monsieur, mais excusez-moi, je ne me rappelle pas votre nom.
Je m'appelle Antoine Nouis.
Bon, voilà. Alors, je veux simplement préciser que j'ai été enseignante en élémentaire pendant 40 ans. Donc, j'ai eu des enfants qui ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents, toujours hétéros. Et puis, une petite précision pour le monsieur qui est là-bas. J'ai des amis homosexuels garçons qui ont adopté des enfants. Mais bien entendu, il n'y a qu'un seul qui est parent, mais les garçons aussi peuvent le faire. Alors, moi, ma question, c'est, par exemple, moi, je suis hétéro, mais j'ai l'impression, dans ce que j'ai entendu ce soir, que le couple parfait est le couple hétéro. Je suis assez étonnée, parce que, par exemple, à la mairie, je ne parle même pas de l'église, à la mairie, les premiers mots sont « vous vous jurez fidélité ». Et là, il y a du travail quand même. Voilà. Alors, je voulais vous demander si vous pensez vraiment que le couple hétéro est le couple parfait. Moi, je rejoins ce qu'a dit Marc. Pour moi, non. Je veux dire, il y a des couples qui sont très bien, hétéro ou homo, mais je n'ai pas l'impression que ceux qui pourtant passent par la mairie et qui sont hétéros, qui ont juré certaines choses, ils ne le pratiquent pas. Donc, par exemple, ça me gêne beaucoup.
Alors, ok. Alors, là, d'abord, il y a quelque chose où je suis totalement d'accord avec vous. C'est qu'il y a une dizaine d'années, on m'a demandé d'écrire un rapport pour l'Église réformée sur le sujet, et la conclusion de mon rapport, c'est de dire... C'est bien que l'Église s'occupe d'homosexualité, mais ne devrait-elle pas commencer par s'occuper de l'hétérosexualité ? Et les couples ne vont pas bien. Est-ce que là, il n'y a pas un vrai sujet pour l'Église ? Et d'ailleurs, c'est suite à cette recommandation que la question de la famille a été inscrite à l'ordre du jour des synodes. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Je dirais que la question, à mon avis, est... Évidemment, je veux dire, la question qui est souvent avancée, c'est de dire est-ce qu'il vaut pas mieux un bon couple homosexuel qu'un mauvais couple hétérosexuel ? Bien sûr, bien sûr. Mais, en toute rigueur de pensée, il ne faut pas comparer un bon couple homosexuel à un mauvais couple hétérosexuel, mais il faut comparer un bon couple homosexuel à un bon couple hétérosexuel et un mauvais couple hétérosexuel à un mauvais couple homosexuel. Et puis, éventuellement, de se poser la question, est-ce qu'on peut évaluer quelle est la proportion de bons et de mauvais dans les deux conjugalités ? Ça, je ne m'y attarderai pas, j'en sais rien, et je veux pas. Donc, je veux dire, il y a des bons couples homosexuels et il y a des très mauvais couples hétérosexuels. Mais il y a des très mauvais couples homosexuels et il y a des très bons couples homosexuels. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est... Donc, il me semble qu'en toute rigueur de pensée, quand on réfléchit, il faut essayer de réfléchir à ce qui est comparable. Et donc, nous sommes en Église, posons la question du bon couple hétérosexuel au bon couple homosexuel. Et voilà. Et c'est dans ce cadre-là que je veux réfléchir. Et dans ce cadre-là, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis prêt à réfléchir à des bénédictions des deux, mais je souhaiterais maintenir la distinction, et contrairement à ce que disait Marc tout à l'heure, distinguer ne veut pas dire hiérarchiser.
Et puis ensuite la question c'est de savoir est-ce que le mariage, en l'occurrence, va plutôt dans le sens de ce travail finalement pour transformer le couple en un peu meilleur couple peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui joue là-dedans ? Et en particulier la bénédiction, parce que je pense quand même qu'on a parfois eu tort dans l'Église réformée en particulier de séparer trop le mariage est une affaire civile, profane, etc. Et puis l'important, la bénédiction c'est tout à fait autre chose. Moi, je crois que le mariage, c'est quand même une institution un peu globale qui commence dans l'engagement de deux personnes l'une vis-à-vis de l'autre, dans l'intimité, dans un projet commun, dans un engagement commun, mais d'abord dans l'intimité, ça a une dimension sociale, à la mairie, ça a une dimension de contrat, avec la loi protégeant le plus faible, les plus faibles éventuellement, avec les enfants, et puis une dimension familiale, religieuse, de témoignage, de louange, de prière, d'appel à l'aide de Dieu pour vivre justement, et qu'il y a un supplément de création, qu'il y ait une évolution qui puisse être vécue au jour le jour par le couple. Et bien moi je pense que tout cela, c'est ce travail sur la qualité d'être finalement, la qualité d'engagement. Je pense que c'est le même, oui, pour un couple homosexuel que pour un couple hétéro, et que par conséquent, dans les deux cas, il y a quelque chose qui est bon, qui est favorable dans sa globalité, dans l'intimité, dans le côté social, dans le côté spirituel, familial. Et c'est pour ça, je crois que ça améliore quand même la qualité du couple. Le mariage y contribue, et la préparation qui est autour, et les amis qui sont là, et le côté un peu sacré aussi, il y a un côté d'humilité peut-être, de recherche, de quelque chose de plus qui vient de la foi.
Pardon. Je remercie les deux pasteurs qui ont parlé, mais alors, quand l'enfant grandit, bon, il a, il a tout ce qu'il faut matériellement, mais quand il vient à la majorité, mais alors comment il accepte ça vis-à-vis du monde extérieur ? Je veux dire, comment c'est accepté à l'extérieur, ils peuvent le dire, mais tiens, tes parents, c'est ton père, tu as deux pères, tu n'as pas de mère, et il doit être gêné. Alors comment l'enfant peut comprendre, si vous voulez, quelle est sa réaction vis-à-vis du monde extérieur? Merci.
Oui, là, moi, je crois que Marc a répondu tout à l'heure en disant que tous les enfants ont leur chemin à faire et ont leur... voilà, je veux dire qu'aucune famille est totalement parfaite et qu'il a à assumer son nom, ses parents, son milieu. La question que vous posez, me semble-t-il, ou la façon peut-être un petit peu la déplacer, c'est de dire, voilà, on sait que la constitution d'une identité est quelque chose de pas facile, enfin, nous le savons tous, les parents, et puis les éducateurs, les pasteurs, tout le monde, etc. Est-ce que le fait d'être élevé par un couple homosexuel rend cette façon de s'accepter soi-même, de se trouver son identité, de savoir qui on est, de savoir se poser par rapport aux autres, est-ce que ça facilite ou est-ce que ça complique? Moi, je serais prudent.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé d'engager un dialogue avec des couples homosexuels pour discuter du couple, de l'engagement, etc. Et quelle forme concrète est-ce que ça pourrait prendre dans l'église protestante? Quel type d'organisation pourrait être mise en place?
C'est à moi que vous posez la question?
Oui, tout à fait.
D'accord, okay.
Pardon.
Alors, je vais vous répondre. Je crois que moi, je serais très, très, très favorable à essayer de réfléchir à la façon dont l'Église peut signifier l'accompagnement de Dieu, la bénédiction de Dieu sur des étapes de vie. Comme je disais tout à l'heure, enfin, comme j'écrivais, il y a une dizaine d'années à peu près, l'Église réformée de France a porté au sujet des synodes un thème de réflexion qui s'appelait baptême, scène, signe. Et moi, donc, le baptême, la scène, ça c'est classique, c'est la théologie des sacramentelles. Mais derrière la question de signe, bon, il y avait quelque chose auquel j'étais très attaché, c'est quel signe l'Église peut-elle poser auprès de personnes qui sont dans des situations de vie particulières. Par exemple, à une occasion des épisodes de vie, je veux dire, un départ à la retraite, une maladie, mais aussi une guérison. Voilà, comment l'Église signifie cela? Et dans ce cadre-là, je me dirais qu'il faudrait essayer de faire preuve d'une créativité liturgique pour signifier la bénédiction de Dieu dans un certain nombre de circonstances. Et moi, dans ce cadre-là, je serais prêt à réfléchir à la façon dont, quand un couple homosexuel se présente et dire « Voilà, nous sommes un couple, nous sommes homosexuels, nous voulons vivre notre homosexualité sous le regard de Dieu », eh bien, à essayer d'imaginer quelque chose d'autre, mais quelque chose qui puisse marquer cette reconnaissance-là.
Rosemary, il y a une dame devant qui a envie de poser une question, je crois. Voilà.
Devant, sur votre gauche.
Pourquoi ne rend-on pas le mariage, donne pas le mariage aux homosexuels à partir de... donner le mariage homosexuel à partir de 30 ans et faire un mariage indissoluble?
J'ai pas compris la question.
Faire un mariage qu'on peut pas, sans divorce. Hein. Sans divorce possible, c'est ça?
À partir de 30 ans, il y a une
discussion. Crac, sans divorce possible. C'est vous proposez ça à votre député, par exemple. Moi, je sais pas si je voterai pour ça, mais cela dit, parce que si vous voulez, la vie est complexe, en fait. Et que bien souvent, on remarque que certaines églises essayent de faire ça, finalement, d'interdire le divorce. Moi, je remarque qu'il existe des cas où il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Il faut être pragmatique, en fait, si vous voulez, dans ce cas, genre de choses. Et donc, vous voyez, c'est comme il y a des députés qui veulent voter qu'il soit interdit de licencier ou de fermer une entreprise. Bon, on peut toujours voter ce genre de loi. Cela dit, le fait est que, quand une entreprise ferme, on peut toujours décréter qu'elle n'a pas le droit de fermer, elle ferme, si vous voulez faire quoi. Là, c'est pareil pour le divorce, je pense, mais... Enfin, c'est pas tout à fait la question du jour, quand même.
Oui, moi, je dirais que, bien sûr, on peut imaginer un monde idéal dans lequel tous les couples s'aiment parfaitement, sont dans l'allégresse, sont hétérosexuels, on peut imaginer ça. Malheureusement, la réalité est plus compliquée que ça. Et que la réalité, parce que notre humanité est plus compliquée que ça, est plus chaotique, que les relations sont plus difficiles, et qu'à partir de ce moment-là, il faut reconnaître, l'homosexualité est, elle existe. À partir du moment où elle existe, moi, en tant que théologien, qu'est-ce que j'en fais ? Cette question, je ne veux pas l'éluder. De même que, effectivement, des couples qui sont mariés, qui se sont aimés, et qui se haïssent, et qui se détruisent, et qui se font du mal, ça existe. Hein, et que je pourrais être contre, mais c'est la réalité, et donc je dois faire avec cette réalité.
En tout cas, puisqu'il y a un petit blanc, je trouve que c'est très bien qu'on puisse débattre justement ce genre de choses. Il n'y a pas là-dessus, on peut avoir des opinions différentes sur ce genre de choses, comme le mariage homosexuel. Oui.
Bonsoir. Je relève un certain nombre de contradictions. Ah. D'abord parce qu'on est tous enfants de Dieu, mais j'ai bien entendu qu'on était plus ou moins égaux, même en étant enfants de Dieu. C'est-à-dire que si on a des orientations sexuelles hétérosexuelles, on a plus de droits, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, on aurait plus de droits que si on avait des orientations homosexuelles. Donc, première question, là il y a une belle contradiction, où est le message d'amour et de tolérance ? Deuxième chose, la société a peut-être devancé les réflexions des théologiens. Il y a beaucoup de situations qui existent actuellement avec un grand vide juridique. Alors moi, je veux bien qu'on glose très longtemps sur le sujet, mais que fait-on de tous ces cas qui existent ? Est-ce qu'on a le droit de les laisser comme ça dans le vide parce qu'on ne s'occupe pas de leur situation ? Vous faisiez référence tout à l'heure aux enfants des couples. C'est difficile pour les hommes homosexuels et les femmes de facto font des enfants et elles ont du mal à assurer leur avenir sur le plan juridique. Est-ce qu'on a le droit, pour des questions de principe, parce qu'on est en train de faire des débats sur le sujet, de laisser tous ces enfants dans cette incertitude ? Voilà ma deuxième question.
Oui, alors bon... Il est vrai qu'il y a des questions juridiques qui se posent, et je l'ai dit, ces questions juridiques, il faut les traiter, et je suis favorable à ce qu'on les traite. Et que, mais c'est des questions qui sont très difficiles, hein, justement parce que la question, effectivement, de la reconnaissance du parent autre qui n'est pas le géniteur et qui est le parent du conjoint, du parent, quel droit lui donner ? Il faut lui donner des droits. Mais c'est une question qui est très, très, très difficile, hein, parce que ça pose d'autres questions. Et cela dit, je l'ai dit, je crois, j'ai lu, je ne sais pas si c'est juste, mais j'ai lu qu'en Angleterre, le mariage homosexuel n'était pas autorisé, mais que tous les droits du mariage étaient accordés aux homosexuels. Hein ? Et ce que je veux dire, et que ce que je trouve dans votre question, ce qui est, vous présupposez tout à fait que quand je mets de la différenciation, je mets toujours de la hiérarchie, en disant, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, je voudrais me sortir de cette logique-là. Il existe des différences qui ne sont pas d'hiérarchie, et je vais même dire quelque chose, je vais même aller jusqu'au bout. Je sais qu'il existe une belle sexualité homosexuelle. Pourquoi vouloir l'assimiler à l'hétérosexuel ? Je crois qu'elle a sa beauté, qu'elle a sa singularité. Hein ? Je veux dire par là que différencier, ça n'est pas hiérarchiser. Maintenant, sur la question des droits, c'est des questions qu'il faut traiter, mais il faut faire attention, c'est très compliqué. Hein ? Les juristes disent que c'est très 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 compliqué, les histoires de... Mais il faut le faire.
Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer, comme tu dis, de faire un autre chose qu'un mariage, donc un, je sais pas quoi, un homo-mariage ou quelque chose comme ça. Mais en fait,
homo-union.
Homo-union.
Je sais pas, quelqu'un avait suggéré ce nom-là. Hein. Mais non, mais peut, pour que les choses. Voilà. Pardon.
Non, mais je comprends. On peut changer le mot, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que ça entraîne, la moindre confusion d'appeler tous les deux mariages. Et je crois que s'il y a une raison quand même, c'est que c'est très difficile de créer des symboles en fait. On ne peut pas. Et on se dit, voilà, je vais faire une bénédiction de je ne sais pas quoi par exemple. Eh bien, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la demande, parce que ça ne dit rien. Et on le voit, je veux dire, la vigueur des débats autour du mariage homosexuel, ça montre tout le poids formidable qu'a le mariage, en fait. Et donc ça, c'est une énergie, c'est tout un tas c'est un capital qui fait que ça s'est accumulé à travers les milliers d'années, à travers la vie de ce concept, en fait, de mariage, qui a vécu à travers génération, des centaines de générations. Eh bien, si on coupe le mot, on coupe la pile, en fait. Et je pense que c'est dommage de ne pas justement faire bénéficier de cette extraordinaire expérience de vie qu'a été l'évolution de cette institution qu'est le mariage, de ne pas en faire bénéficier un certain nombre de couples. Oui, ça laisse penser dans un sens qu'ils n'en sont pas dignes. Et même si ce n'est pas ce que tu entends, mais entends dire, c'est ce que, c'est comme ça que ça peut être vécu quand même. C'est comme ça que ça peut être vécu par ces couples qui veulent être au bénéfice de ces centaines d'années de construction de du mot mariage, de l'institution du mariage. Et je trouve que c'est vache de les en priver, parce que c'est quelque chose, effectivement, qui a une vraie puissance. C'est la puissance du symbole. Ça s'explique difficilement, ça ne s'explique pas rationnellement en disant « oui, on met un autre nom, c'est la même chose ». Non. Non, c'est pas la même chose, parce que justement, c'est ce qui fait la vigueur des débats et c'est ce qui fait la puissance du truc, en fait. J'ai l'impression.
Oui, moi j'ai un peu le sentiment que on est un peu à côté de la société. On entend depuis tout à l'heure un débat sur les enfants qui seraient dans une famille hétérosexuelle, mariés, évidemment, et tout va très bien, et une problématique d'enfants qui seraient adoptés par les homosexuels. Déjà, sur les enfants des couples hétérosexuels, je voudrais rappeler qu'à la ville de Paris, depuis plusieurs années, la majorité des enfants qui naissent dans une famille qui n'est pas mariée. La majorité. C'est quand même un élément qui relativise toutes les histoires de... Voilà. Deuxièmement, je regardais cet après-midi dans les statistiques du rectorat de Créteil, un tiers des collégiens sont dans des familles soit monoparentales, familles dissoutes, soit recomposées. Donc par rapport à l'enfant et à la perception de son origine de biologie, il y a quand même quelques problèmes dans les deux cas. Donc, côté hétérosexuel, c'est quand même pas si simple que ça, la formation des enfants. Côté homosexuel, je ne vois pas pourquoi on n'arrête pas de parler d'adoption, comme si les couples homosexuels qui ont des enfants les avaient adoptés. Dans la majorité des cas, dans beaucoup de cas, peut-être pas la majorité, ils les ont eus tout à fait naturellement. Pas entre eux, évidemment, mais avec l'aide d'un tiers, que ce soit avec l'aide de la médecine ou sans aide de la médecine. Alors, la question que, in fine, c'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt réfléchir à la place de l'enfant et la place du couple, quelle que soit sa nature, dans une société sécularisée comme la nôtre, plutôt que d'avoir envie de légiférer sur les alcôves. Parce que ça peut mener assez loin. Je renvoie pour les connaisseurs aux travaux de Jean-Louis Flandrin sur la naissance d'une morale sexuelle en Occident, où l'Église catholique légiférait sur les positions à pratiquer, celles qui étaient interdites, celles qui étaient tolérées, celles qui étaient recommandées, hein, et était arrivée à expliquer aux mères que si leur enfant était mal formé, c'est parce qu'elles avaient éprouvé trop de plaisir au moment de la conception et que ça avait les gesticulations avaient troublé les humeurs. Bon, donc quand on arrive à légiférer de cette façon-là, je pense qu'on fait fausse route. Voilà. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se poser la question, dans la société d'aujourd'hui,
qu'il y a deux hommes, deux femmes, ou un seul d'ailleurs, beaucoup de femmes ont un enfant, sans vouloir connaître le père, bon, bah, ils se débrouillent et puis ça marche très bien. Comment on répond à ça et comment on insère au mieux à la fois les parents ou le parent et les enfants?
Bon, alors d'abord là je voudrais rejoindre ce que disait Marc tout à l'heure. Nous sommes ici dans un milieu d'église. Excusez-nous, nous église, de trouver que le mariage est quand même une bonne idée. Ce que je veux dire par là, c'est que et certes, il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas, mais comme le disait Marc tout à l'heure, le mariage ça reste quand même une sorte de référence symbolique, de référence structurante. Et je dois dire que le mariage, et là vraiment je rejoins beaucoup ce que disait Marc, voilà, il y a une notion d'inscrire une histoire dans la durée, d'inscrire une relation dans la durée, et que ça c'est une belle aventure humaine, je dirais, hein. Et en tant que belle aventure humaine, je dirais que c'est quelque chose que je continue à défendre, et c'est la raison pour laquelle ce débat m'interpelle et m'intéresse beaucoup, je dirais. Et c'est pas parce qu'il y a la moitié des couples qui vivent qui sont pas mariés que ça change le regard que je peux avoir sur le mariage. Voilà. La seconde question, c'est maintenant sur la question des enfants, bien sûr. Là, je dirais que vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'un tiers des enfants ne vivent pas avec leurs deux parents. Mais je crois que les signaux qui nous sont renvoyés aujourd'hui par l'éducation nationale aussi, c'est que globalement, les enfants ne vont pas très bien. Enfin, je dirais, les enfants ne vont pas très bien. Et donc, qu'on essaye vraiment de se poser la question sur qu'est-ce qui est souhaitable pour essayer de stabiliser et pour essayer d'accompagner des parents, ça reste, je crois, une question non seulement légitime, mais en plus socialement urgente.
Non, c'est bon, je suis d'accord.
Une dernière question, peut-être, alors.
Moi, pour faire un peu d'humour, là, je me demandais quand même si l'attraction du mariage, puisqu'on dit en rigolant qu'il n'y a plus que les prêtres et les homos qui ont envie de se marier, est-ce que ça ne serait pas parce que c'est interdit, finalement? Parce qu'une fois que ça sera permis pour tout le monde, ils ne trouveront pas ça forcément marrant. Puisque ma génération à moi, on s'est bagarré. Moi, je voulais vivre en couple sans passer par la mairie, ne serait-ce que pour me révolter contre la société. Et non, mais ça, je me pose la question. Je renvoie les gens à la chanson de Georges Brassens, « La non-demande en mariage ».
Non, mais je trouve que c'est effectivement c'est une bonne question et c'est bien, c'est tout à fait bien posé. Cela dit, comme le disait Antoine, c'était une bonne occasion, je crois, d'essayer de se poser la question comment marche le mariage. Vous voyez, on s'est posé des questions intéressantes sur l'éducation d'un enfant, construction de l'identité, la place de l'altérité. Il y a tout un tas de questions qui sont fondamentales là-dedans. Et je crois que oui, on a pu avoir un bon débat et c'est une bonne chose. Donc, en particulier, merci donc à vous trois, mais aussi vous dans la salle, de ce débat qui peut être dépassionnant, enfin, je veux dire, sans acrimonie sur des questions qui touchent des choses extrêmement profondes et qu'on peut, même si nous ne sommes pas concernés au premier degré par cette question du mariage homosexuel, ça permet aussi de penser peut-être à ceux qui ont des espérances ou qui ont des difficultés, et puis de se poser des questions, des vraies questions de société plus largement.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux, Antoine et Marc. Marc et Antoine, merci beaucoup à vous tous.
Voilà. Merci à vous tous.
Si jamais vous voulez, vous savez que le débat se poursuit dans le journal Réforme, et prenez gratuitement le numéro de Réforme qui est paru aujourd'hui à la sortie de ce temple.